Ces marins qui ont donné leur nom au quai de Bayonne. Voici la première partie d'une conférence de Marilyn Chevrel de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, conférence enregistrée le 22 septembre 2021 à la Peña Taurine Côte Basque, conférence organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Ces marins qui ont donné leur nom au quai de Bayonne. Dans cette première partie, Marilyn Chevrel nous parlera plus particulièrement du marin Bergeret.
Alors oui, pourquoi je me suis intéressée, c'est pas la première fois que je m'intéresse aux marins à Bayonne. Moi qui ne suis pas du tout un signe d'eau, je suis au contraire un signe de terre. Mais bon, ça m'a intéressée de savoir quels étaient les personnages qui étaient derrière ces noms de quais à Bayonne, d'autant que j'habite moi-même tout près du quai Jaurès-Guibéry, tout près du quai Roquebert, pas loin du quai du Bourdieu, et au moins deux de ces marins vont nous occuper aujourd'hui, puisque vous allez le voir, je vais commencer dans l'ordre chronologique. Voilà, donc étant une habituée des archives bayonnaises et amatrice de vieux plans de Bayonne, j'y ai souvent cherché les anciens noms de nos rues, de nos places et de nos quais, hauts en couleur, qui contribuent au pittoresque et au charme de notre cité. Les quais de la rive gauche de la Nive, entre le pont Mailloux et le pont du Génie, ont été renommés pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1941, à une époque où le conseil municipal a ressenti le besoin, je cite, « d'éliminer des dénominations sans intérêt et de rappeler surtout le souvenir de certains hommes qui ont apporté au patrimoine commun, parfois un peu de gloire, plus souvent des services particulièrement appréciés. » C'est un extrait de la délibération du conseil municipal du 24 janvier 1941, délibération qui a été présentée par le maire Pierre Simonet. Pour ces quais animés du centre-ville, on a naturellement choisi de rendre hommage à des marins bayonnais, nés non loin de ces voies bordant la Nive, qui se sont illustrés sur des mers lointaines ou qui ont joué à leur époque un rôle important. Il s'agit de Bernard Dubourdieu, je pars de Laval, Bernard Dubourdieu, Dominique Roquebert et Jean-Bernard Jaurès-Guibéry. Mais quelles étaient leurs anciennes dénominations à ces quais dites sans intérêt ? En partant de Laval, le quai débutait par, débutant au pont Mailloux, a d'abord porté le nom de quai de la douane ou de l'ancienne douane, puis quai Mailloux, quai du pont Mailloux vers 1836, avant de devenir le quai amiral du Bourdieu, improprement dénommé, puisque cet officier de marine est mort au combat avec le grade de capitaine de vaisseau et non pas d'amiral. Donc ça, c'est le scoop du jour. Dubourdieu n'était pas amiral, vous m'avez comprise. Le quai suivant a été construit entièrement en neuf par la municipalité de Jules Labatte dans les années 1860, au moment de la réalisation de nouvelles halles inspirées des pavillons Baltard de Paris. Pour réaliser ce projet colossal qui incluait la continuité des quais sur la rive gauche, et cette photo montre bien le quai du Bourdieu, puis le quai Roquebert, et qui passait devant les halles, mais autrefois, vous allez voir que ce n'était pas le cas, il n'y avait pas de continuité. De la voie de circulation carrossable sur la rive gauche de la Nive, on a détruit tout un îlot insalubre, faisant face à la rivière, appelée le quartier du Charbon. Ici, c'est une aquarelle de Grimard. Il y en a une autre de Corrège, qui est postérieure. On le voit à certains détails de la maison Moulis, c'est ce qui m'a permis de dire que celle-ci est postérieure. On a détruit dans tout un îlot insalubre ce quartier du Charbon. Ces vieilles maisons malsaines, abritées sous leurs arcades, on le voit peut-être mieux avec celui-là, vous voyez les arcades, abritées sous leurs arcades, un quai piétonnier, étroit, sombre, souvent inondé, appelé quai pont traversant, car il enjambait un petit bras de la Nive, on le voit au milieu, ce petit bras de la Nive remontait quasiment jusqu'à l'actuelle rue de la Salie, et auquel on accédait par un escalier en bois situé au bout de la rue Port de Bertaco, près du pont Panecaud. Aujourd'hui, de cet ancien quai à arcade, il ne reste que les quatre dernières maisons, situées entre les rues Port de Suzeil et Port de Castets. À l'époque du projet, voilà une autre reproduction par Duplantier, à l'époque du projet en 1855, le quai est dénommé Napoléon, voilà projet de quai en l'hommage de Napoléon III, dont Jules Labatte était très proche. Sur un plan de 1877, il est même désigné comme quai national, puisque l'appellation Napoléon a été très vite abandonnée. Donc on l'a appelé quai national. Puis il devient naturellement le quai des Halles, bien sûr, puisque ce sont les Halles construites par Jules Labatte à l'époque. Avant d'honorer définitivement en 1941 le capitaine de vaisseau Dominique Roquebert, voilà le quai Roquebert actuel. Mais le quai, pendant des années, a été improprement appelé quai Commandant Roquebert. À la demande de la famille Roquebert, qui a eu parfaitement raison, on a renommé le quai Dominique Roquebert, capitaine de vaisseau. Il était commandant à bord de son vaisseau, il commandait son vaisseau, mais son réel grade, c'était capitaine de vaisseau. Le dernier quai en amont, entre les ponts Panoukot et du Génie, a longtemps porté le nom de quai des Basques, ou quai de la rue des Basques, sur un plan de 1835, avant de devenir le quai Amiral Jaurès-Guibéry, que tout le monde connaît aujourd'hui. Un quai très animé et très bruyant. On pense en avoir terminé avec les quais rive gauche de la Nive. Et pourtant, il y en a encore un, dont la plupart des Bayonnais ignorent le nom, car il ne comporte aucune adresse, et de ce fait n'est jamais cité. C'est le quai bordant la place de la Liberté entre le pont Mayou et l'angle nord-est de la mairie, dénommé quai Amiral L'Espèce en 1957. Ce quai actuellement, je l'ai signalé à la mairie, ne porte pas une plaque de toponymie l'identifiant. Et donc on l'a appelé quai Amiral L'Espèce en 1957 en remplacement de son ancienne appellation, sa très jolie ancienne appellation, il s'appelait Avenue du bord de l'eau. À Saint-Esprit, puisqu'il y a des quais aussi à Saint-Esprit, trois quais de la rive droite de la Dour relèvent de la toponymie. En aval du pont, le quai le plus ancien, vous le voyez là, est situé entre le pont et la rampe de la citadelle, au-devant des chais des marchands bayonnais. Dédié au trafic maritime du port, il a été reconstruit à neuf sous le Second Empire en 1857 et prolongé jusqu'à la route du Boucau. Il a porté successivement plusieurs noms, quai de la Voie, du nom de l'ingénieur qui obtint la concession des terrains situés au bord de la Dour, au pied des fortifications ordonnées par Vauban, donc il vivait à l'époque de Vauban, et il avait obtenu cette concession, moyennant la construction de quais, de cales, de chais et de maisons qui lui appartiendraient. Et ces constructions, effectivement, en particulier 10 chais, dont on a là encore trace aujourd'hui sur les plans, constructions qui ont été achevées en 1720. Puis il s'est appelé quai d'Artaguiette en l'honneur d'une famille de mendiants qui s'est illustrée au XVIIIe siècle. Le d'Artaguiette en question, je pense, c'était Jean-Baptiste qui était commissaire de la marine à Bayonne, mais dont trois frères se sont illustrés à Saint-Domingue et en Louisiane. Je pense que la saga des frères d'Artaguiette a été déjà écrite par quelqu'un. Donc, quai d'Artaguiette, avant de prendre le nom de quai de la manutention, on comprend bien pourquoi, les navires accostaient là et il y avait du déchargement et du chargement. Et enfin, quai de Lesseps, qu'on connaît aujourd'hui, en l'honneur de cette famille bayonnaise dont le nom sera mondialement connu grâce bien sûr au plus célèbre d'entre eux, Ferdinand, le concepteur des canaux de Suez et de Panama. Une petite partie de ce quai, celle qui se situe entre la place Saint-Ursule et le pont Saint-Esprit, a pris le nom de l'amiral Sala, Antoine Sala, après la mort de ce marin bayonnais en 1973. Donc c'est notre dernier amiral bayonnais, qui a une toponymie bien sûr. En amont du pont Saint-Esprit, pendant très longtemps, la Dour était bordée de berges marécageuses, d'étangs à moulins, le moulin de Courrèges ou de Sceaux que vous voyez ici, il y avait aussi le moulin de la Croix. Le quai n'a été aménagé qu'au XIXe siècle, après 1851, date de la fin de la construction de l'actuel pont Saint-Esprit, et n'a porté qu'un seul nom depuis 1867, celui de l'amiral Bergeret, à l'époque le plus illustre de nos marins, et nom qu'ils portent toujours aujourd'hui. Je vais vous présenter ces marins dans l'ordre chronologique, aussi est-ce par le dernier cité que je vais commencer, donc Bergeret. Et les hasards de la vie ont fait que Bergeret, Dubourdieu et Roquebert sont nés à Bayonne à la même époque, respectivement en 1771, en 1773 et 1774. Ils se connaissaient, car le monde du négoce et de la marine est assez fermé à l'époque. Ils ont entre 15 et 18 ans à la Révolution. Audace et talent leur ont permis de réaliser de brillantes carrières qui ont fait honneur à leur grande et à leur petite patrie. Je vais donc commencer par Jacques Bergeret, qui a vécu donc de 1771 à 1857. Il est né le 19 mai 1771 à Bayonne, dans une famille de marins et de négociants tournés vers la mer. Son grand-père, Abraham Bergeret, originaire de Pau, est venu s'installer à Bayonne, où il est charpentier de marine, puis capitaine de navire. J'ai essayé de retrouver, parce qu'il s'est marié à Orthès, avec une jeune fille d'Orthès. Je pensais que c'était une famille protestante avec le prénom qu'il avait, mais je n'ai pas réussi à retrouver l'acte de mariage. Donc, qui est venu s'installer à Bayonne, où il est charpentier de marine et puis capitaine de navire. Il a épousé en 1723 Catherine Argousse, issue d'une famille bayonnaise de construction de bateaux. Le couple loue la maison L'Archevêque, située au bout du pont, du quai pont traversant à l'époque, à l'angle du port de Castets, devenu quai Roquebert, où naîtront leurs 8 enfants. Son père, Jean-Baptiste, né en 1741, est le 7e de la fratrie. Il devient négociant et courtier de marine. Il habite également cette même maison, avant de l'acquérir en 1779, avec son épouse Jeanne Béic, fille d'armateur, qui lui donna 5 enfants. Jacques, le futur amiral, est l'aîné. La seconde, Jeanne Brigitte, épousera en 1802 Jean Roquebert, courtier de marine, frère aîné de Dominique Roquebert. On voit que la maison natale de Bergeret renforce les liens des deux familles et en fait Bergeret est né dans la maison qui allait devenir la maison Roquebert. Donc, et sur le quai Roquebert. Voilà qu'ils avaient eux deux des liens de famille. Le 31 mai 1783, à l'âge de 12 ans, Jacques Bergeret s'engage comme mousse sur un navire de commerce, la Bayonnaise, à destination de Pondichéry. À cette époque, il est dépeint comme un bel enfant, vif et audacieux, un excellent nageur qui aime la mer. Un an plus tard, en juin 1784, il se porte volontaire sur la corvette L'Auguste, commandé par Geslin de Châteaufur, lieutenant de vaisseau de la Marine royale, qui part en exploration dans la mer Rouge. Alors, ce n'est pas lui que vous voyez, mais c'est un membre de la famille qui était... Il y avait plusieurs officiers de marine dans cette famille. Cet officier appartient à une famille originaire de Rennes, implantée en Inde à Pondichéry, et très impliquée dans la Compagnie française des Indes orientales. Ayant eu l'occasion d'observer le jeune Bergeret, l'officier décèle en lui des qualités remarquables et décide de s'occuper de sa formation théorique et pratique sans lui éviter le rude apprentissage de la mer. Il lui apprend qu'il est nécessaire de savoir obéir pour savoir commander et le forme au matelotage en même temps qu'à l'apprentissage des devoirs d'officier. Le matelotage, c'est tout simplement l'apprentissage de toutes les tâches et les actions que font les matelots sur les bateaux. Bergeret a vécu avec lui une instructive mais longue et pénible campagne d'exploration à bord de l'Auguste qui rentre à Pondichéry en octobre 1785. Le souvenir de ce maître attentif restera longtemps présent dans le cœur de l'élève et le médaillon qu'il lui a offert lui sauvera un jour la vie. Rentré en France, il retourne à la marine marchande et entre 1786 et 1792 embarque comme pilotin, c'est-à-dire comme élève officier non diplômé, sur divers navires de commerce. On le retrouve sur les registres de la Bretagne, le Pacificateur et le Hernou, qui sont armés à Bayonne et à Bordeaux, à destination de l'océan Indien, et plus particulièrement de l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice. Durant ces années, Bergeret acquiert de l'expérience qui lui permet de tenir le rôle de second lieutenant sur le Hernou. Aussi est-il apte à remplir les fonctions d'officier quand la marine de guerre procède pendant la Révolution au recrutement d'officiers civils pour compenser la défaillance des nombreux officiers émigrés. Ainsi, comme le feront d'ailleurs Dubourdieu et Roquebert, qui sont, on l'a vu, de la même époque, Bergeret profite vers l'âge de 20 ans de l'opportunité de rejoindre la marine d'État. En avril 1793, Bergeret est enseigne à bord de l'Andromaque, une frégate qui escorte des convois à destination de la France, commandée par l'intrépide Renaudin, qui allait se distinguer l'année suivante avec la perte du vaisseau Le Vengeur du Peuple. J'ai sauté quelque chose ? Excusez-moi. Là, le voilà, pardon. Le Vengeur du Peuple que vous voyez là, au cours d'un combat héroïque mené contre une escadre anglaise. Un an plus tard, le 13 juin 1794, il embarque sur la frégate L'Unité comme lieutenant en pied, c'est-à-dire officier en second, avant d'être promu lieutenant de vaisseau. Et vite après, il se voit confier le commandement de la Virginie, une frégate de 44 canons appartenant à l'escadre de Brest, placée sous l'autorité de l'amiral Villaret de Joyeuse. Ce dernier apprécie beaucoup Bergeret, à qui il s'adresse ainsi. La conduite que vous avez tenue dans l'armée et les connaissances que vous avez déployées me sont un sûr garant que vous justifierez le choix qu'ont fait les représentants pour un commandement aussi important que celui de la Virginie. Pour moi, comptez que je serai toujours empressé à faire récompenser votre zèle et vos talents. Notre homme ne tarde pas effectivement à montrer ses talents. Le 23 juin 1795, à la bataille de Groix, où l'escadre de l'amiral anglais Cornwallis donne la chasse à l'escadre française. Dans cet engagement, la Virginie, audacieusement conduite par Bergeret, est l'un des premiers bâtiments à repousser les forces anglaises. Et dès le retour, Villaret demande la promotion de Bergeret au grade de capitaine de vaisseau, promotion qui lui sera accordée l'année suivante, le 21 mars 1796. Il n'a pas 25 ans et peut dorénavant prétendre au commandement de tout bâtiment de la flotte républicaine. Le mois suivant, la Virginie rencontre la division britannique aux ordres de Lord Pelham à bord de son vaisseau amiral, l'Indéfatigable. Ce dernier prend en chasse la Virginie, qui, après plus de 15 heures de poursuite, fait face au bâtiment anglais, supérieurement armé. Un violent combat s'engage, qui cause de très gros dégâts à la frégate. Deux mâts sont tombés, la voilure hachée par la mitraille, ses flancs sont traversés de part en part, des voies d'eau dans la cale. Ne pouvant plus manœuvrer le bâtiment, Bergeret doit se rendre à l'ennemi. Il est prisonnier de Pelou, qu'il invite à résider, non pas dans les geôles anglaises, mais dans sa propriété près de Plymouth, en Cornouailles. Les deux hommes vont y nouer des liens d'estime et même d'amitié qui perdureront très longtemps entre eux. Après 2 ans de détention, les Britanniques proposent d'échanger Bergeret contre le commodore Sidney Smith, fait prisonnier par les Français, qui le considèrent non pas comme un prisonnier de guerre, mais comme un espion, et à ce titre refusent l'échange. Les Britanniques décident alors d'envoyer Bergeret à Paris sur parole pour plaider la cause de l'échange. Celui-ci échoue, mais fidèle à sa parole, regagne l'Angleterre. Or, peu après, Smith s'évade de sa prison dans des conditions rocambolesques. En fait, on pense qu'il y a eu un complot visant à ce qu'il puisse s'échapper librement de la prison française. Dès lors, considérant que l'échange est caduque et pour honorer le respect de sa parole par Bergeret, l'amirauté britannique décide de le libérer. Après son retour en France, il prend le commandement du 10 août, un vaisseau de l'escadre de l'amiral Bruix, en croisière dans l'Atlantique et la Méditerranée durant les années 1799 et 1800. Dans cette campagne hautement stratégique, le 10 août joue le rôle de régulateur pour tous les bâtiments réunis sous le commandement de l'amiral, en la coordination par les signaux entre bateaux. Toujours prêt à transmettre les signaux comme à y obéir, Bergeret se fait remarquer par la précision, la rapidité et l'harmonie de ses mouvements. L'année suivante, il commande le Foudroyant, un vaisseau de guerre de 80 canons construit à Rochefort. Puis, après la signature de la paix d'Amiens en 1802, Bergeret demande à retourner au commerce, sans pour autant renoncer au service de l'État. si la guerre venait à éclater de nouveau. Cette démission conditionnelle lui est refusée. Il reformule une démission formelle acceptée par le ministre Decret en ces termes. « Je vous préviens, citoyens, que le premier consul a accepté votre démission le 17 de ce mois, c'est le 17 Ventose en 10, c'est-à-dire le 8 mars 1802. Les refus réitérés que je vous ai faits de la lui présenter ont dû vous prouver combien je désirais vous conserver dans la marine. Vos services m'étaient connus, j'appréciais vos talents. Ce n'est pas sans un vif regret que je vous vois abandonner une carrière où vous vous êtes montré avec avantage et dans laquelle vous avez constamment obtenu l'estime du corps et la confiance du gouvernement. » Bergeret rejoint l'île de France, l'île Maurice, sur la Psyché, un navire armé à Bordeaux, avec lequel il fait du commerce dans l'océan Indien. La paix d'Amiens étant rompue dès 1803, dès le mois de mai 1803, dès que les hostilités reprennent en Inde, il met son épée au service de son pays auprès du général Decamp, capitaine général des établissements français en Inde. Par arrêté, ce dernier accepte l'offre et acquiert pour le service de l'État le bateau de Bergeret, la Psyché, dont Bergeret conserve le commandement. Le 21 mai 1804, Napoléon confirme cet arrêté et réintègre Bergeret comme capitaine de vaisseau dans la marine impériale en le maintenant sur la Psyché. Avec ce bateau qu'il a transformé en frégate armée de 24 canons et de 12 caronades, il se livre à la guerre de course contre les navires de la Compagnie anglaise des Indes orientales. En 1805, près de la côte de Malabar, il capture 3 navires marchands, dont 2 sont modifiés afin de devenir les auxiliaires de la Psyché. Peu après, cette dernière est prise en charge par la frégate anglaise de classe supérieure, le San Fiorenzo, armée de 40 canons. Retardée par ces 2 conserves, la Psyché perd du terrain et se décide enfin au combat. Les 2 adversaires redoublent de feu à bout portant, se causant mutuellement des pertes humaines et des dégâts importants. Alors que la Psyché aborde l'ennemi, des flammes s'échappent du local à poudre à l'insu de son adversaire. Et bien sûr, la priorité de Bergeret n'est plus le combat, mais d'éteindre le feu dans la cale. Bergeret manœuvre pour se détacher de l'ennemi et continue avec désavantage cette lutte acharnée. Au bout de 4 heures d'affrontement, la Psyché n'est plus en état de soutenir le combat et se rend à l'ennemi avec 67 hommes tués et 70 blessés. La seule consolation de Bergeret est de se retrouver prisonnier de Lord Pelloux, devenu entre-temps vice-amiral, commandant les forces britanniques dans l'océan Indien. Au dire des témoins, les retrouvailles des 2 hommes sur le gaillard arrière du vaisseau de l'amiral fut une scène particulièrement émouvante. On imagine très bien cette scène dans un film d'aventure. Cette fois, Bergeret est rapidement échangé et Decamp lui offre le commandement d'une autre frégate, la Créole, avec mission d'apporter des rapports et des pêches en France. Après un temps d'inactivité, il reçoit le 26 février 1808 l'ordre du ministre de se rendre à Hambourg pour y effectuer avec les autorités françaises présentes la levée de 3000 matelots dans les villes hanséatiques. À cette occasion, il fait la connaissance de Bernadotte, maréchal d'Empire, qui commande l'armée alliée cantonnée dans la ville et ses environs. En février 1809, le vice-amiral Lhermitte, commandant la division mouillée à l'île d'Aix, étant tombé gravement malade, Napoléon ordonne son remplacement par Bergeret. Arrivé à Rochefort pour prendre le commandement de la ville de Varsovie, il a la surprise de trouver les 6 bâtiments de la division en très mauvais état, les équipages ravagés par les maladies sont très incomplets et il lui manque plus de 200 matelots. À cette époque, le contre-amiral Villomès est chargé de conduire une partie de la flotte de Brest en rade de l'île d'Aix, d'y rallier la division de l'Orient et celle de Rochefort pour transporter des renforts de troupes aux Antilles. Or, ces 2 divisions, bloquées par les vaisseaux anglais et décimées par les épidémies, ne prennent pas la mer. De plus, il semble que Bergeret, Il semble que le Bergeret n'ait pas reçu l'ordre d'appareiller qui est acheminé le long de la côte par les signaux du télégraphe de Chappe, dont vous voyez ici un modèle. Arrivé sur place, à Rochefort, Villomès se querelle avec Bergeret. Les deux hommes sont révoqués sur ordre de l'empereur, sans avoir l'occasion de pouvoir s'expliquer. Et ils resteront en disgrâce et sans affectation jusqu'à la fin de l'Empire. Pendant cette période d'inactivité, Jacques Bergeret en profite pour se marier. Le 22 janvier 1810, avec sa cousine germaine Marie-Alexis Béic, fille de Michel Béic, une famille bayonnaise bien connue, négociant, armateur et financier, qui s'est établi à Morlaix et dont il est devenu le maire. À la Restauration, le gouvernement royal accueille favorablement Bergeret, qui compte 18 ans de service dans son grade. En août 1814, on lui confie une division pour conduire en Russie, par la mer Baltique, les prisonniers russes de la campagne de France. Il remplit cette mission avec autant de fermeté que d'humanité, ce qui lui vaut l'estime des autorités russes qui le décorent de l'ordre de Sainte-Anne. Lors des 100 jours, Bergeret disgracié reste totalement ignoré et de ce fait n'est pas compromis, ce qui lui permet de prendre place dans la réorganisation de la marine sous la seconde restauration. En 1817, il commande une importante division constituée autour du vaisseau Lector pour aller reprendre possession de la Guyane restée aux mains des Portugais. Il doit y transporter le nouveau gouverneur, le général Cara Saint-Cyr, avec son état-major et un contingent de 600 hommes. Une fois la colonie remise aux autorités françaises, Bergeret opère le transfert de la garnison portugaise avec armes et bagages au Pernambouc, c'est-à-dire l'État qui est situé au nord-est du Brésil sur la côte atlantique. De retour en France, il commande successivement plusieurs vaisseaux, dont le duc de Berry, le duc Esclin, le Neptune, le Foudroyant. Le 27 janvier 1819, il est promu contre-amiral et se voit confier la direction de la station des Antilles, qui contrôle une zone s'étendant très vaste, une zone s'étendant du Mexique jusqu'à Terre-Neuve. 4 ans plus tard, en 1863, il rentre à Brest, où il exerce avec ardeur les fonctions de major général, participant à l'expérimentation de nouveaux armements et proposant même des améliorations pour certains types de vaisseaux. Ayant sollicité un service de mer plus actif, il reprend de septembre 1826 à août 1828 le commandement de la station des Antilles qui compte dorénavant 12 bâtiments. Dans cette époque troublée d'accès à l'indépendance des colonies d'Amérique latine, Bergeret va porter les derniers coups à la piraterie qui infeste l'archipel au préjudice des armements commerciaux de la métropole. Et en retour, il reçoit les témoignages de gratitude des chambres de commerce du Havre, de Nantes et de Bordeaux, qui faisaient bien sûr beaucoup de commerce avec cette zone. Après la Révolution de 1830, il ne dépend que de lui d'être nommé ministre de la Marine, grâce à l'appui de son ami d'enfance bayonnais, Jacques Lafitte, appelé à former et à présider le second ministère de Louis-Philippe. Mais Bergeret, toujours prompt à user de son crédit pour les autres, refuse la proposition pour lui-même. Cependant, en août 1831, il accepte sa nomination au Conseil de l'Amirauté, dont les membres apprécient très rapidement son active collaboration. Le 1er mars 1831, il est promu vice-amiral et l'année suivante nommé préfet maritime de Brest, centre stratégique de la flotte de l'Atlantique. Après le décès de son épouse en 1834, il demande à être relevé de ses fonctions à Brest et retrouve son siège à Paris au Conseil de l'Amirauté, dont il devient le vice-président en 1835. En 1841, au moment où il est admis à la réserve, Bergeret est élevé à la pairie grâce à l'insistance du ministre de la Marine, l'amiral baron Dupéret, qui avait été l'officier de manœuvre de la Virginie lors de son combat contre l'indéfatigable en 1796. Le 25 avril 1847, 22 ans après sa promotion au grade de grand officier, il reçoit des mains du roi le grand cordon de la Légion d'honneur. Un an après, le 11 avril 1848, il est admis à la retraite et malgré la baisse de son revenu, continue à secourir des veuves et des orphelins d'anciens serviteurs de la marine, c'est bien le même homme qui, après ses croisières dans le golfe du Bengale, consacrait déjà ses parts de prise à prendre soin de ses prisonniers malades ou nécessiteux. Le 31 décembre 1852, Napoléon III l'invite à siéger au Sénat, où il reçoit l'accueil le plus cordial. Au moment de la guerre de Crimée, Bergeret fait parvenir au ministre de la Marine quelques notes issues de sa vieille expérience pour améliorer les bâtiments de guerre. Il suit toutes les opérations militaires et, jusqu'à un âge avancé, continue à se préoccuper des choses et des hommes de la Marine. Il décède à Paris le samedi 29 août 1857, dans sa 87e année, laissant à la Marine un nom profondément respecté. Ses obsèques sont célébrées en l'église de la Madeleine. Les honneurs lui sont rendus en présence d'une nombreuse assistance. Il est enterré à Brest, près de son épouse, décédée 23 ans auparavant. À la fin du mois d'août, le courrier de Bayonne annonce son décès et, dans son numéro du 9 septembre, consacre une pleine page à sa biographie. Voilà pour notre premier homme, Bergeret.
Ces marins qui ont donné leur nom au quai de Bayonne, vous venez de suivre la première partie de la conférence de Marilyn Chevrel de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, conférence enregistrée le 22 septembre 2021 à la Peña Taurine Côte Basque, conférence proposée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Dans la seconde partie que nous entendrons la semaine prochaine, Marilyn Chevrel nous parlera des marins du Bourdieu et Roquebert.